これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Anterren avec Paola Reymann.
À la technique, Olivier Dupré.
Et à la réalisation, le seul, l'unique, le vrai François Connac. Le jour vient de la délivrance. Plus d'anneaux qui pendent au nez, plus de harnais sur nos échines. Les fouets cruels sont retombés, éperons et morts sont en ruine. Bêtes d'Angleterre et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance, un âge d'or vous est promis. La ferme des animaux de George Orwell est peut-être la plus efficace de toutes les dystopies qui mettent en scène le fait qu'aucun paradis ne saurait s'incarner sous peine de devenir l'enfer. Redoutez-vous, chers auditeurs, que les hommes se conduisent comme des animaux ? Enfants qui n'avaient rien vu. Vous vous trompez d'adversaire, vous vous trompez d'ennemi. Le monde sera vraiment dangereux le jour funeste où ce sont les animaux qui singeront l'homme. Jugez plutôt. Who's
that bitch ? Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Dans La servitude volontaire, Étienne de la Boétie écrivait « Qu'est-ce que l'homme doit avoir de plus cher que de se remettre dans son droit naturel et pour ainsi dire, de bête, redevenir homme ?» Or, dans La ferme des animaux, cette fable dans une étable écrite en 1947 par George Orwell, c'est pour leur malheur que les bêtes se mettent à ressembler aux hommes. Les cochons, despotes, mangent dans de la porcelaine de Chine et boivent de la bière, les pourceaux sont élevés dans des écoles d'État et les traîtres assassinés, pendant que le reste de la basse-cour trime et connaît la famine. Car, comme l'affirme l'ultime commandement de l'animalisme, tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres.
Vous avez raison de citer la Boétie parce que, comme la ferme des animaux d'Orwell raconte le trajet d'une révolution qui revient à son point de départ en vérité, c'est-à-dire qui s'abîme dans le retour à l'ordre qu'elle a prétendu combattre, ce trajet-là, cette histoire-là qu'on va raconter maintenant, est une histoire effectivement d'animaux qui ressemblent tellement aux hommes qu'ils entament le processus révolutionnaire par la haine des hommes. Et rien n'est plus humain, évidemment, que ce genre de repentance, que ce genre de détestation initiale. Écoutez plutôt.
Quelle est donc, camarade, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre. Et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voici qu'on nous égorge avec une cruauté inqualifiable. Passé notre première année sur cette terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoit ce que signifient des mots comme « loisir » ou « bonheur ». Et quand le malheur l'accable ou la servitude, pas un animal qui soit libre. Telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout uniment ainsi par un décret de la nature ? Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente ? Non, camarade, mille fois non. Fertile est le sol de l'Angleterre et propice son climat. Il est possible de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. Cette ferme, à elle seule, pourrait pourvoir aux besoins d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons, tous vivant dans l'aisance une vie honorable. Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer chose pareille. Mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable ? Parce que tout le produit de notre travail, ou presque, est volé par les humains. Camarades, là se trouve la réponse à nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul véritable ennemi. Qu'on le supprime, et voici extirper la racine du mal.
Ça paraît simple quand on entend le discours donc qu'on vient d'entendre là avec nos auditeurs de Sage l'Ancien, le cochon.
Sage l'Ancien, le cochon. C'est celui qui prend la parole en premier dans la ferme des animaux. C'est celui qui réunit toute la basse-cour. Enfin, tout le monde est là. Singe. Mais presque. Veaux, vaches, cochons, chiens, chattes, etc. Tout le monde est là, tout le monde est réuni.
Le seul absent, et qui est mentionné, je le dis parce qu'il est mentionné en tant qu'absent, c'est Moïse, le corbeau apprivoisé qui sommeillait sur un perchoir.
Oui, il sommeille sur un perchoir. Moïse occupe une place tout à fait particulière. En fait, Moïse, le corbeau, incarne la figure du religieux dans un régime totalitaire laïque, c'est-à-dire dans une religion séculière, au fond. Le communisme, qui est l'ennemi numéro un, le communisme stalinien, qui est l'ennemi de George Orwell dans La ferme des animaux, est une religion en soi. Et il est vrai que les églises avaient mauvaise presse à l'époque et qu'il était dangereux de croire en Dieu. Mais on laissait persister ici ou là, parce qu'on avait l'intelligence du fait que l'espoir est un éteignoir, bien souvent, et en particulier quand il s'agit d'une espérance, quand c'est une vertu théologale, ça permet de tenir les gens tranquilles, on peut faire ce qu'on veut à quelqu'un à qui on donne l'espoir. Eh bien, l'Église avait de temps en temps, parfois, une petite fonction sociale, on pouvait pas parler d'un retour du religieux, mais une sorte de tolérance implicite, ponctuelle, et c'est cela qu'incarne la figure de Moïse, qui n'est jamais mis à mort par les animaux, bizarrement, alors que ce qu'il propose, ce qu'il offre, leur semble aussi illusoire, au fond, qu'une divinité transcendante qui ne serait pas le camarade Staline, c'est-à-dire, dans la ferme des animaux, le camarade cochon Napoléon.
Oui, parce que le personnage qu'on a entendu parler, qui a fait son discours, qu'il faut supprimer l'homme est la racine du mal des animaux, c'est Sage l'Ancien, et qu'on pourrait plutôt apparenter, dans une perspective historique, à un mélange entre Marx, Lénine, mais un Lénine qui, de fait, puisque Sage l'Ancien meurt avant la Révolution, n'aurait pas participé à la Révolution.
Alors, voilà, dans la chronologie orwellienne, Sage l'Ancien meurt après avoir délivré son rêve, qui sert de viatique, de programme d'action aux animaux qui lui survivent. Dans le cas de Lénine, c'est un tout petit peu différent, puisque Lénine meurt en 24. Mais enfin, il cesse d'être actif un peu avant. Et surtout, après la mort de Lénine, Staline prend le pouvoir, prend d'assaut le Parti communiste. Et on verra comment ça se passe dans la ferme. C'est assez bien décrit d'ailleurs. Les modes, les procédés sont rigoureusement ceux d'une prise de pouvoir par le noyautage des cellules qui composent l'ensemble de l'administration. Donc Orwell amalgame les deux épisodes que sont la Révolution de 17 et la prise du pouvoir du Parti communiste au Parti communiste par Staline en 1924. En vérité, c'est ça qu'il raconte. Donc il fait comme si Lénine était mort avant. Voilà. Lénine est mort avant le coup d'État de Napoléon. C'est-à-dire le coup d'État du cochon Napoléon qui, par fidélité, soi-disant, à Sage l'Ancien, en vient à mettre la main sur la Révolution et à la dévoyer.
Oui, mais Lénine, pour le coup d'État, je pensais juste à une anecdote historique, du coup, c'est que dans le testament de Lénine, pour savoir à qui allaient revenir, du coup, les rênes du Parti communiste, il hésitait donc entre Trotsky et Staline.
Pas vraiment. Hein.
Oui, mais il dit de Staline qu'il craint parce qu'il est, il craint Staline parce qu'il est trop brutal. Et c'est tout à fait, quand on regarde, c'est boule de neige, quoi. Et alors, ces molosses, bah on aura l'occasion d'en reparler, mais...
C'est pas boule de neige.
Ah, c'est Napoléon. Ah, pardon, c'est Napoléon. Excusez-moi, bien sûr. Boule de neige, c'est plutôt Trotsky.
Mais
oui.
Bien sûr, oui. L'affrontement Napoléon-boule de neige, c'est l'affrontement Staline-Trotsky.
Oui, oui.
Et c'est Brille-Babille, le propagandiste, le Beria du coin ou le Vorochilov du coin, prenant le camp de Napoléon, fait, en somme, basculer les choses du côté de la... Enfin, fait avaler aux animaux la pilule de l'éviction de boule de neige, c'est-à-dire de Trotsky. C'est comme ça que les choses se sont passées, et c'est ça que raconte la ferme des animaux. Avec cette dimension tout à fait intéressante que pointe d'emblée Orwell, dès le début de son texte, qui est une sorte d'optimisme anthropologique. C'est-à-dire qu'il dit ceci, enfin, un optimisme anthropologique animalier. Il dit, hein, toutes les mœurs de l'homme sont de mauvaises mœurs, mais surtout, jamais un animal n'en tyrannisera un autre, quand tous sont frères, peu importe le fort ou le faible, l'esprit profond ou simplet, nul animal jamais ne tuera un autre animal, Tous les animaux sont égaux. L'ennemi est tout deux pattes, l'ami tout quatre pattes ou tout volatile. Il y a une sorte d'optimisme anthropologique. On parie sur le fait que l'animal est d'une vertu supérieure à l'humain. Ceci renvoie à l'une des tensions propres, alors là pour le coup, au marxisme lui-même. Et à son éventuel, alors certains diraient dévoiement, d'autres diraient son amélioration par ce qu'on a appelé le marxisme-léninisme, c'est-à-dire à cette tension qui existe à l'intérieur du marxisme entre l'analyse, le diagnostic d'un système qui s'effondrera inévitablement sous le poids de ses propres contradictions et dont on pourrait se dire à cet égard qu'il suffit pour en précipiter l'effondrement d'abonder les procédures qui sont les siennes. Et l'ambition volontariste d'accélérer le mouvement, ou de le rendre possible. Dimension proprement révolutionnaire ou léniniste, en vérité. C'est-à-dire ces deux dimensions. Or, cette seconde dimension, ce volontarisme, spécule non pas seulement sur un mécanisme qui, au fond, s'accommode de l'égoïsme humain en pariant sur le fait qu'un système capitaliste reposant sur l'égoïsme humain est un système condamné à sa propre perte, enfin voué à sa propre perte, et le sentiment que cette perte gagnerait à être hâtée par l'intervention de l'homme et surtout garantie par la vertu de ceux pour qui la révolution a été conduite. Il y a au principe de l'utopie communiste ou de l'utopie soviétique un temps, un optimisme anthropologique qui, au fond, parie sur la vertu de l'homme, sur l'idée d'un homme nouveau, d'un homme soviétique. Alors, c'est intéressant ça parce que Orwell lui-même, quand il parle de la ferme des animaux, s'inquiète un moment de cela. Il dit
« Ce qui est terrifiant dans les dictatures modernes, c'est qu'elles constituent un phénomène entièrement sans précédent. On ne peut prévoir leur fin. Autrefois, toutes les tyrannies se faisaient tôt ou tard renverser, ou à tout le moins, elles provoquaient une résistance, du seul fait que la nature humaine, dans l'ordre normal des choses, aspire toujours à la liberté. Mais rien ne garantit que cette nature humaine soit un facteur constant. Il se pourrait fort bien qu'on arrive à produire une nouvelle race d'hommes dénuée de toute aspiration à la liberté. Tout comme on pourrait créer une race de vaches sans cornes. »
En d'autres termes, la crainte d'Orwell, c'est que, en s'appuyant sur un optimisme anthropologique, sur la vertu inhérente de l'homme soviétique ou n'importe quoi, on en vienne à produire un individu qui soit lui-même spontanément un esclave, c'est-à-dire à extirper le goût de la liberté des passions individuelles. C'est un phénomène auquel certains sinologues considèrent qu'on assiste en Chine aujourd'hui, puisqu'on a affaire à un peuple entier, au dire de certains, qui aurait remplacé tout simplement l'idéal de liberté par la réalité de la consommation, et qui se satisferait en fait d'une économie de marché qui ne serait pas réversible, ou plus exactement d'une économie de marché ou d'une liberté d'entreprendre qui ne serait pas une liberté d'expression. Vous savez, c'est la fameuse équation aronienne. Aron considère que, en libéral qu'il est, toute liberté d'expression implique la liberté d'entreprendre. On ne peut pas scinder la liberté. C'est la raison pour laquelle l'économie de marché est la dot de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans économie de marché, sous peine de devenir ou de déboucher sur un massacre de masse. En revanche, ce qu'on découvre avec l'exemple chinois, par exemple, aujourd'hui, c'est la possibilité d'une liberté d'entreprendre qui n'est pas une liberté d'expression. Il n'y a aucune liberté d'expression en Chine. Aucune. Aucune, que les choses soient claires. Il n'y a aucune liberté d'expression en Chine. Il y a un journal unique, il y a un parti unique, il y a à peine Internet. C'est le Moyen-Âge. Et c'est intéressant parce que c'est un Moyen-Âge qui, par ailleurs, débouche sur une liberté d'entreprendre considérable. Et c'est la critique implicite chez Orwell, dès 1947, de cet optimisme anthropologique qui est au principe des révolutions, en tout cas de la révolution communiste, qui, à mon avis, doit retenir notre attention parmi les éléments cruciaux contenus dans le discours de Sage l'Ancien, c'est-à-dire de Lénine.
Mais cela dit, ça nous ramène à ce que disait Étienne de la Boétie, déjà, dans La servitude volontaire, lorsqu'il montre que le mécanisme, et c'est surtout une critique du peuple, plus que du tyran dans La servitude volontaire, et il montre que le mécanisme est sournois parce que c'est pas tellement par lâcheté que le peuple ne se révolte pas, mais par volonté. Et Orwell le montre bien dans le cas de la basse-cour, qui est une sorte de peuple, et la basse-cour Bien qu'elle trime, je pense à une phrase. Par exemple, à un moment, il dit « Malgré la rigueur du travail, les animaux n'eurent pas à pâtir de tout l'été. S'ils n'étaient pas mieux nourris qu'au temps de Jones, en tout cas, ils ne l'étaient pas moins. » Et il continue, j'arrête la citation là, mais en tout cas, ce qu'il montre après, c'est qu'ils travaillent de bon cœur, les animaux. Malabar travaille de bon cœur, Douce continue à croire à cette illusion. Et donc, ils font ça par volonté, ils se soumettent, même s'ils ont des petits doutes quant à la bienveillance de Napoléon.
Alors, c'est intéressant parce que on va reprendre tous les personnages. Vous avez cité Malabar et Douce. Malabar et Douce, ce sont les chevaux. Ce sont les chevaux. Ils sont très costauds. Ce sont des manifestement des percherons. Ce sont des chevaux très costauds. Et donc, c'est eux qui font, par leur force, tenir tout cet édifice sur ses pieds.
Malabar est un petit Stakhanov, quoi.
Malabar, c'est Stakhanov. C'est Stakhanov. Écoutez ceci, vous avez raison de le dire. Malabar, c'est tout à fait Stakhanov. Enfin, c'est le mythe de Stakhanov.
Du matin à la tombée de la nuit, il poussait, il tirait et était toujours présent au plus dur du travail. Il avait passé accord avec l'un des jeunes coqs pour qu'on le réveille une demi-heure avant tous les autres. Et, devançant l'horaire et le plan de la journée, de son propre chef, il se portait volontiers aux tâches d'urgence. À tout problème et à tout revers, il opposait sa conviction « Je vais travailler plus dur ».
À cette conviction sympathique de Malabar s'ajoute une autre conviction qui est « Napoléon a toujours raison ». Alors, Malabar est intéressant parce qu'il est celui qui considère que Napoléon a toujours raison, donc c'est le bras armé du pouvoir en place, du pouvoir totalitaire qui s'est retrouvé à la tête de la ferme après le coup d'État de Napoléon. Mais c'est également celui que son bon sens, enfin dont le bon sens proteste un peu de temps en temps. Il s'indigne de telle ou telle disposition légale, telle mesure prise dans la ferme, jusqu'au moment où on lui dit « mais non, c'est Napoléon qui l'a décidé ». Et là, Malabar s'incline. Malabar n'est pas tellement la figure, enfin c'est pas la figure la plus tragique de la servitude volontaire, il me semble. C'est plutôt celui dont l'enthousiasme innocent, disons, le transforme en esclave, enfin, de cette cause libératoire. Oui.
Il est intéressant de constater quelque chose, c'est que dans le discours de Sage l'Ancien autour début, Sage l'Ancien fait des prévisions. Il dit par exemple à Malabar « Toi, Malabar, le jour où tes muscles fameux n'auront plus leur force ni leur emploi, Jones te vendra à l'équarisseur et l'équarisseur te tranchera la gorge. »
On dit équarisseur. Hein,
ah, l'équarisseur.
Mais pourquoi
oui,
pas l'équarisseur, si vous voulez. Allez-y.
J'ai pas fait exprès. Excusez-moi.
De fait, c'est ce qui lui arrive. Hein. L'équarisseur lui tranche la gorge. Effectivement, Malabar est vendu à l'équarisseur par Napoléon pour récupérer quelques caisses de whisky.
Mais par les cochons.
Oui, par les cochons, c'est-à-dire Napoléon. Il faut bien comprendre que dans la ferme, c'est les cochons qui prennent le pouvoir. Encore un point sur Malabar, il a bon cœur. C'est celui qui regrette, par exemple, un jour de tuer un garçon, puisque quand la ferme est envahie par les hommes qui sont comme les Vendéens ou comme les Blancs pendant la Révolution soviétique, qui essaient de reprendre le pouvoir, quand la ferme est envahie par les hommes, donc il y a des combats dantesques, homériques, et Malabar, malencontreusement, tue un garçon. C'est lui qui est désolé. À quoi Napoléon ou Bribabille lui répond. Mais pas de sentimentalité, camarade. Rappelant d'ailleurs, de cette façon, enfin rappelant avant l'heure, puisque ça n'est pas encore écrit, la pièce de Camus, Les Justes, au cours de laquelle... Non, j'ai tort d'ailleurs, la pièce a déjà été écrite. Mais enfin, c'est la même affaire. Le dialogue entre Stepan et Kaliaïev dans Les Justes, c'est celui-là. Kaliaïev est celui qui hésite à jeter une grenade sur la calèche princière parce qu'il voit les enfants dans la calèche. Stepan, c'est celui qui lui dit « pas de sentimentalité, camarade ». La révolution n'est pas une affaire d'amour. La révolution est une affaire de rigueur. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, Orwell et Camus sont, de ce point de vue, exactement sur la même ligne. C'est-à-dire la ligne d'une révolution possible à condition qu'elle soit conduite par amour, c'est-à-dire que l'amour lui fournisse à la fois son carburant, mais également ses limites, c'est-à-dire sa mesure, que l'amour impose à l'idéal révolutionnaire ce que Camus appelle l'intransigeance exténuante de la mesure. Donc Camus est de ce côté-là, c'est ce qu'il enseigne dans L'Homme révolté, c'est ce qu'il enseigne dans Les Justes, c'est ce qu'il enseigne partout. Donc il y a cette dimension-là à laquelle s'oppose l'intégrisme ou l'intégrité révolutionnaire d'un Napoléon, d'un Bribabille, qui en viendront à trahir l'idéal révolutionnaire par intégrité révolutionnaire, justement. C'est là le coup de génie de la ferme des animaux, c'est de voir à quel point on s'éloigne de l'idéal révolutionnaire quand on prétend le préserver contre tout sentimentalisme, contre toute... Enfin, Tout ce qui est perçu comme du sentimentalisme et que Camus lui appellerait, à bon droit d'ailleurs, l'amour. Si une révolution n'est pas portée par l'amour, son dévoiement est inévitable. Et c'est, là encore, l'une des leçons de la ferme des animaux.
Vint le mois de juin, et bientôt la fenaison. La veille de la Saint-Jean, qui tombait un samedi, Mr. Jones se rendit à Willingdon. Là, il se saoula si bien à la taverne du Lion Rouge qu'il ne rentra chez lui que le lendemain dimanche en fin de matinée. Ses ouvriers avaient trait les vaches de bonne heure, puis s'en étaient allés tirer les lapins sans souci de donner aux animaux leur nourriture. À son retour, Mr. Jones s'affala sur le canapé de la salle à manger et s'endormit, un hebdomadaire à sensation sur le visage. Et quand vint le soir, les bêtes n'avaient toujours rien eu à manger. À la fin, elles ne purent y tenir plus longtemps. Alors, l'une des vaches enfonça ses cornes dans la porte de la resserre et, bientôt, toutes les bêtes se mirent à fourrager dans les huches et les boîtes à ordures. À ce moment, Jones se réveilla. L'instant d'après, il se précipita dans la remise avec ses quatre ouvriers, chacun le fouet à la main. Et tout de suite, une volée de coups s'abattit de tous côtés. C'était plus que n'en pouvaient souffrir des affamés. D'un commun accord, et sans s'être concertés, les meurs la faim se jetèrent sur leurs bourreaux. Et voici les cinq hommes en butte aux ruades des coups de corne changés en souffre-douleur. Une situation inextricable, car de leur vie, leur maître n'avait vu les animaux se conduire pareillement. Ceux qui avaient coutume de les maltraiter, de les rosser à qui mieux, voici qu'ils avaient peur. Devant le soulèvement, les hommes perdirent la tête, et bientôt, renonçant au combat, prirent leurs jambes à leur cou. En pleine déroute, ils filèrent par le chemin de terre qui mène à la route, les animaux triomphant à leur trousse.
On peut penser, en écoutant ce passage, on peut penser à une autre œuvre qui parle de révolution et dont on a parlé dans le Gai Savoir, c'est Coriolan. Parce que le mécanisme est le même, c'est que c'est par la famine, parce que les bêtes n'ont pas eu à manger, parce que leur propriétaire s'est saoulé toute la nuit et qu'il n'a pas pensé à les nourrir, que débute la révolution, et de façon assez spontanée.
Oui, effectivement. Et c'est tout le problème de la révolution. Encore une fois, Camus, hein, qu'est-ce qu'on doit offrir aux révolutionnaires ? Du pain, bien sûr, mais aussi de la bruyère. L'homme a besoin de pain, mais il a aussi besoin, même s'il le sait moins, du pain spirituel, c'est-à-dire de la bruyère, de la beauté, qui est, dit Camus, l'aliment de son cœur. On a besoin de ces deux éléments. Mais c'est vrai que les révolutions, pas besoin d'aller jusqu'à Coriolan, la Révolution française. Les révolutions commencent par des phénomènes de famine. Or, c'est exactement ce qui se passe, puisque les humains négligent de nourrir les animaux. Donc ils ont la dalle, les animaux. Ils ont faim toute la journée. Et c'est comme ça, c'est le déclencheur, c'est le catalyseur de la révolte. Il y a la théorie, fournie par Sage l'Ancien, bien sûr, la belle théorie de l'émancipation animalière contre l'exploitation de l'animal par l'homme. Bien, mais au-delà de cette théorie, il y a la réalité de la famine. À quoi s'ajoute un élément qui, me semble-t-il, est important dans les conditions de la Révolution ? C'est la décadence. C'est Weimar, si vous voulez. C'est la République décrépite. C'est la liberté vaincue par sa propre victoire et qui s'est endormie sur ses propres lauriers. Voilà. C'est la figure de Monsieur Jones qui va se saouler toute la nuit, qui rentre le lendemain et qui s'endort avec un journal à sensation sur les yeux. C'est l'Empire romain qui organise des partous et des orgies et qui par là même ménage la possibilité pour les barbares de conquérir la cité du monde. C'est la même affaire, c'est-à-dire qu'il y a un élément de décadence auquel s'ajoutent décadence, famine et théorie. Décadence, famine et charisme du théoricien sont les trois éléments, en l'occurrence, qui déterminent l'événement, c'est-à-dire le basculement dans un ordre nouveau, la victoire au terme de la révolution. Et l'on comprend aussi, mais ça c'est très fort, on le comprend vraiment dès les deux premiers chapitres, tous les éléments sont en place, on comprend aussi pourquoi ça ne va pas marcher, ou plus exactement, ça va marcher, puisque Napoléon va rester au pouvoir, ça finit mal. Mais ça va marcher à la condition d'en revenir à l'ordre ancien. Tout est déjà contenu dans les procédures qui conduisent les animaux à prendre le pouvoir dans la ferme.
À quoi faites-vous référence, par exemple ?
Eh bien, le simple fait que les animaux parient sur la différence entre l'homme et l'animal, sur la fin de l'exploitation de l'animal par l'homme et propose comme remède à l'exploitation de l'animal par l'homme l'extermination de l'homme par l'animal. Ce modèle réversible, ce modèle en miroir, qui est le propre d'un tempérament révolutionnaire, qui prétend substituer à un vice le règne de la vertu, sans voir que de cette façon il passe d'une illusion à une illusion plus forte encore, puisque c'est une illusion, comment dire, masquée par le sentiment d'être sorti de l'illusion, tout cela est déjà mis en place dès le début. Il n'y a aucun doute à avoir sur la façon dont la révolution va être détournée de son ambition initiale. Tout ce qu'on lira ensuite, les 7 commandements animaliers qui seront progressivement effacés, amendés, réécrits au profit du seul dictateur Napoléon, c'est-à-dire Staline. Toutes ces façons qu'on a de mentir, par exemple l'interdiction du luxe, on interdit à 12 de porter des rubans. Il est absolument interdit de porter des rubans.
À Lubie, et pas à Douce.
Les rubans, déclare Napoléon, sont assimilés aux habits, et ceci montre la marque de l'homme. Tous les animaux doivent aller nus. L'interdiction des rubans débouche ensuite sur le fait que les cochons seuls ont le droit de porter des rubans. De la même façon, l'interdiction de l'alcool, ou bien l'interdiction de tuer d'autres animaux. Tout cela sera progressivement révoqué au profit, au seul profit des cochons, qui sont les animaux intelligents de la ferme. Tous ces reniements sont en réalité contenus dans le sentiment qu'il suffit, pour rompre avec l'ordre ancien, d'instaurer un ordre nouveau. Sans voir que l'instauration d'un ordre nouveau et la façon dont il est instauré préserve en vérité, garantit, ménage le retour ultime de l'ordre qu'on a prétendu révoquer.
Vous avez mentionné les réécritures des amendements, la façon de transformer l'histoire. Et il y a un personnage qui est dévolu à cette tâche, c'est Brill Baby. Et on peut donner à entendre aux auditeurs un exemple de ses discours.
Ah oui,
qui
il est formidable.
Toujours par le même.
C'est le propagandiste Brill Baby. Il faut bien comprendre que dans la structure, pendant un moment, on a l'affrontement entre Napoléon et Boule de Neige, c'est-à-dire entre Staline et Trotsky pour la prise du pouvoir, et que c'est Napoléon qui l'emporte en contraignant à l'exil Boule de Neige avant de l'exécuter. Brill Baby, c'est le causeur éblouissant, c'est le propagandiste, c'est le miel de l'absinthe, c'est celui qui est chargé de faire avaler la pilule de toutes les mesures et les revirements et les reniements napoléoniens, jusqu'à s'en prendre évidemment à la mémoire des animaux. On peut le décrire en peu de mots. Brill Baby donc est un cochon, et c'est un cochon dont toutes les plaidoiries ont pour objet de justifier tout et son contraire. Il justifie naturellement le coup d'État par Napoléon, comme il avait justifié la Révolution. Il avait vanté le courage de Boule de Neige, c'est-à-dire Trotsky, à la tête de l'armée rouge, c'est-à-dire à la tête de l'armée de libération. Donc il avait vanté le courage de Boule de Neige avant de faire croire à tout le monde que Boule de Neige était déjà un traître au moment de la prise de pouvoir. C'est celui qui justifie la reprise des travaux de construction du moulin à vent après avoir maintes fois expliqué que ce moulin à vent était une entreprise totalitaire et bourgeoise qui ménageait en réalité le retour de l'homme. C'est celui qui justifie la reprise des échanges commerciaux avec les hommes après avoir validé le discours excluant l'humanité de la sphère même du dialogue. En somme, c'est lui qui justifie le socialisme dans un seul pays. S'opposant par là même à l'internationalisme incarné par Boule de Neige qui prétend étendre la révolution à toutes les fermes, alors qu'en définitive, Brill Baby et Napoléon se contentent de leur petit lopin et ensuite discutent avec les autres fermes qui sont, elles, tenues par des humains, tout comme la Russie de Staline en viendra à discuter avec l'Angleterre de Churchill ou l'Amérique de Roosevelt. Tout cela est en place et Brill Baby est celui qui fait passer tout cela. On va s'en apercevoir, tiens, les discours de Brill Baby sont des modèles du genre, sont des modèles de, vraiment on dirait du Beria dans le texte. Il y a un moment comme ça très fort où les cochons commencent à s'attribuer des privilèges qu'ils n'accordent pas aux autres animaux. Alors, les animaux qui ont encore vivace le souvenir de la révolution qu'ils viennent d'accomplir, s'étonnent de ce privilège. Et voici ce que leur répond Brill Baby.
Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme et que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes, ainsi camarades que la science le démontre, renferment des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien, et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir ? Jones reviendrait. Oui, Jones. Assurément, camarade, s'exclama Bril Babil sur un ton presque suppliant, et il se balançait de côté et d'autre, fouettant l'air de sa queue. Assurément, il n'y en a pas un seul parmi vous qui désire le retour de Jones.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play.
C'est de chiens, de poules, de pigeons, de vaches, de moutons, de chevaux et de cochons qu'on vous parle aujourd'hui dans le Gai Savoir. C'est de la ferme des animaux de George Orwell, c'est-à-dire de l'Union soviétique.
You can see them out for dinner with their piggy wives, clutching forks and knives to eat the.
Raphaël, ce qui est surprenant quand même, c'est la simplicité du discours de Bril Babil. Et dans tous ses discours, on constate qu'il termine toujours par le même et unique argument. C'est assurément, vous ne souhaitez pas le retour de Jones.
Ouais, mais c'est un classique des dictatures. On oublie à quel point c'est con une dictature. Si vous êtes, par exemple, à Cuba, alors un peu moins maintenant, puisque le régime castriste pactise avec le grand Satan américain. Mais pendant très longtemps, la moindre critique des comités de quartier, de l'emprisonnement des homosexuels, enfin du régime cubain et des atrocités commises par cette espèce de goulag tropical, la moindre critique du régime cubain était immédiatement indexée sur les services secrets américains, c'est-à-dire en deux secondes, quiconque critiquait le régime cubain était immédiatement vu comme un agent secret au service de la CIA. Le complotisme révolutionnaire, pour justifier les exactions de la révolution, les dévoiements révolutionnaires, le complotisme est une arme fameuse et la meilleure arme des propagandistes. Bril Babil ne fait qu'incarner cette disposition-là.
Mais il manque, il me semble que dans la galerie de personnages que crée George Orwell et qui sont ces personnages de l'Union soviétique, à peu près facilement reconnaissables, il manque un personnage qui serait le personnage du dissident, du poète dissident, par exemple, type Mandelstam ou Akhmatova.
Oui, ou Sakharov.
Ou Sakharov, bien
Sakharov.
Sûr.
Ils y sont pas. Ils y sont pas parce qu'on est en 1947. Alors, il y a des éléments d'entrevision étonnants, puisque George Orwell décrit le grand bond en avant. Alors c'est pas la Russie, mais c'est presque pire. C'était le projet maoïste. Le grand bond en avant, c'est 20 millions de morts, la famine qui s'en suivit. Orwell décrit ça à l'avance.
Avec le moulin à vent.
Avec l'épisode du moulin à vent, qui renvoie également aussi à l'ambition des grands travaux, justement, des grands travaux qui faisaient le propre des dictatures. Pour le coup, alors qu'elles soient staliniennes ou nazies, dans les deux cas, il y avait une ambition justement de grands travaux. C'était soit des plans quinquennaux, soit effectivement des grands travaux de construction. Seconde chose qui est entrevue, c'est le complotisme. Je viens d'en parler. On a l'équivalent dans la ferme des animaux du complot des blouses blanches. Complot ouvertement antisémite de Staline.
Vous pouvez rappeler, parce que je pense que tout le monde n'a pas exactement en tête de quoi il s'agissait.
On est en janvier 1953, on parle à ce moment-là d'un complot de médecins soviétiques, comme par hasard presque tous juifs, soupçonnés d'avoir assassiné des dirigeants soviétiques, deux dirigeants soviétiques, et d'avoir prévu d'en assassiner d'autres. Alors évidemment, c'est une machination montée de toutes pièces, qui s'est effondrée ensuite avec la déstalinisation, mais qui a permis pendant un long temps, l'antisémitisme était quasiment une religion d'État après la guerre en Union soviétique, mais qui a permis pendant un temps de détourner tout simplement l'attention en montrant au peuple que les au peuple bien crédule que ses ennemis ne sont pas ses dirigeants, mais au contraire ceux contre qui ses dirigeants luttent. Le complot des blouses blanches s'inscrit dans une belle tradition. C'est ça qui est intéressant, c'est que les dictateurs sont spontanément paranoïaques et complotistes, et en réalité, ce sont surtout des comploteurs. L'incendie du Reichstag, ourdi par Hitler, ou bien le complot des blouses blanches, ourdi par Staline, sont deux complots destinés à détourner l'attention du bon peuple. Alors que l'un et l'autre, justement, font valoir la réalité d'un complot qui justifie un durcissement des lois. Donc, alors, le complot des blouses blanches, avant l'heure, puisque Orwell ne pouvait pas en avoir entendu parler, puisqu'on est en 47 quand il écrit La ferme des animaux, le complot des blouses blanches, en fait, est décrit après l'exclusion de Trotsky, c'est-à-dire de Boule de Neige, après les purges, c'est-à-dire l'arrestation des autres cochons qui étaient avec Napoléon et Boule de Neige au départ de la Révolution, avec le sentiment que le moulin à vent qui était le projet de Boule de Neige, contre lequel luttait Napoléon, est un projet qui, en réalité, est un excellent projet et contre lequel il faut, pour lequel il faut se battre jusqu'au moment où le moulin à vent s'effondre, parce qu'il est mal construit, et que s'effondrant, on en vient à désigner comme responsable, non pas Napoléon qui a entrepris les travaux finalement du moulin à vent, mais Boule de Neige, c'est-à-dire Trotsky. C'est la même histoire, c'est exactement la même histoire. On crée des complots pour vendre au bon peuple d'autres complots qui justifient ensuite un durcissement des lois et une augmentation ou une extension du domaine de l'esclavage au nom d'une liberté promise.
Vous avez parlé des purges. C'est un moment quand même dans ce petit roman, ce moment qui rappelle donc les procès staliniens des années 30 et où des animaux, dans le cas de la ferme des animaux, se mettent à confesser des crimes spontanément qu'ils n'ont pas commis et sont assassinés de rechef sur la place publique au milieu de la basse-cour. Ça peut faire penser à un autre roman qui a pour cible le régime stalinien, c'est Darkness at Noon, le zéro et l'infini d'Arthur Koestler.
Voilà.
Et qui montre ce mécanisme, comment un membre du Parti communiste qui n'est pas un dissident, mais qui est inculpé donc dans cette histoire de complot, finit, alors qu'il ne veut pas avouer au départ, mais finit par confesser ce crime comme un dernier salut donné au parti.
Mais c'est comme l'aveu, c'est la même histoire,
oui, c'est
Paola.
La même histoire que
c'est la même histoire que l'aveu. En vérité, c'est un dévoiement de la maïeutique, socratique, et qui repose dans le régime soviétique, qui est un héritage chez les soviétiques de l'Angleterre du XVIe siècle et de l'époque où l'on considérait qu'on ne pouvait condamner quelqu'un que s'il confessait son crime. Mais évidemment, il y avait des tas de gens qui confessaient des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Donc on mettait en place des procédures qui contraignaient les gens non seulement à confesser leurs crimes, mais qui finalement présentaient la confession de leurs crimes comme la chose la plus souhaitable, ou qui, in fine, leur lavaient le cerveau pour les persuader qu'ils étaient effectivement coupables du crime pour lequel on avait besoin de les accuser, dont on avait besoin de les accuser. Donc cette mécanique-là est une mécanique qui ressemble de loin à la maïeutique, puisque Socrate met ses interlocuteurs dans les affres en les contraignant, en les mettant en situation de découvrir en eux-mêmes un savoir dont ils ne se savaient pas porteurs. Là, sauf que la différence, évidemment, c'est que le savoir, ils en disposent. Les élèves de Socrate, alors que ici, l'ancien général, l'ancien héros de la guerre de libération, qu'on contraint à avouer qu'en réalité il travaille pour l'Occident ou pour l'Amérique ou je ne sais pas n'importe quoi ou qu'il est juif, enfin peu importe, l'ancien héros que l'on contraint, le général Kotov, si vous voulez, que le soleil trompeur de la Révolution contraint confesser des crimes qu'il n'a pas commis ou pour lesquels on le punit à l'avance, est aux antipodes d'un procédé qui de loin lui ressemble, qui est la façon dont Socrate fait accoucher les individus d'un savoir dont ils ne se savent pas porteurs. La différence, encore une fois, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de savoir dont ils seraient porteurs, mais on les en a persuadés. Regardez comment ça marche dans la ferme des animaux, au moment où la révolution se durcit.
Aussitôt le tumulte s'apaisa. Les quatre cochons restaient sidérés et tremblants, et on lisait sur leurs traits le sentiment d'une faute. Napoléon les invita à confesser leur crime. C'étaient là les cochons qui avaient protesté quand Napoléon avait aboli l'assemblée du dimanche. Sans autre forme de procès, ils avouèrent. Oui, ils avaient entretenu des relations secrètes avec Boule de Neige depuis son expulsion. Oui, ils avaient collaboré avec lui à l'effondrement du moulin à vent. Et oui, ils avaient été de connivence pour livrer la ferme des animaux à Mr. Frédéric. Ils firent encore état de confidence du traître. Depuis des années, il était bien l'agent secret de Jones. Leur confession achevée, les chiens sur le champ les égorgèrent. Alors, d'une voix terrifiante, Napoléon demanda si nul autre animal n'avait à faire des aveux.
C'est imparable. On peut pas mieux faire. Et alors d'ailleurs, après, quand il demande si d'autres ont des aveux à faire, ben, y a pas besoin de forcer les gens, si vous voulez. La servitude volontaire se met en marche. Les trois poulets qui avaient mené la sédition dans l'affaire des œufs s'avancèrent, disant que Boule de Neige leur était apparue en rêve. Eux aussi furent massacrés. Une oie se présenta, elle avait dérobé 6 épis de blé. Un mouton, lui, avait uriné dans l'abreuvoir, sur les instances de Boule de Neige. 2 autres moutons avouèrent le meurtre d'un vieux bélier et tous furent mis à mort sur le champ. Et de cette façon, aveux et exécutions se poursuivirent. À la fin, ce fut au pied de Napoléon, un amoncellement de cadavres et l'air était lourd d'une odeur de sang inconnu depuis le bannissement de Jones.
Le troisième dimanche après l'expulsion de Boule de Neige, les animaux furent bien étonnés d'entendre de la bouche de Napoléon qu'on allait construire le moulin, après tout. Napoléon ne donna aucune raison à l'appui de ce retournement, se contentant d'avertir les animaux qu'ils auraient à travailler très dur. Et peut-être serait-il même nécessaire de réduire les rations. En tout état de cause, le plan avait été minutieusement préparé dans les moindres détails. Un comité de cochons constitué à cet effet lui avait consacré les 3 dernières semaines. Jointe à différentes autres améliorations, la construction du moulin devrait prendre 2 ans. Ce soir-là, Brille-Babil prit à part les autres animaux, leur expliquant que Napoléon n'avait jamais été vraiment hostile au moulin, tout au contraire. Il l'avait préconisé le tout premier. Et pour les plans dessinés par Boule de Neige sur le plancher de l'ancienne couveuse, ils avaient été dérobés dans les papiers de Napoléon. Bel et bien, le moulin à vent était en propre l'œuvre de Napoléon.
Ce qui est extraordinaire avec Brille-Babil, c'est que non seulement il persuade les gens de n'importe quoi, mais en plus, il s'en prend à la mémoire. Il attaque en permanence la mémoire. Et là, on retrouve pour le coup un topos qui est très fréquent, un topos orwellien très fréquent, qui est cette façon de nier la mémoire. Vous savez, souvenez-vous, dans 1984, le travail de Winston Smith, il travaille aux archives. Et un jour, on lui demande de compiler les archives qui avèrent l'affrontement séculier de Océania et de Eurasia. Et le lendemain, on lui demande de raconter le contraire en expliquant que les deux ont toujours été les meilleurs alliés du monde, au gré des intentions du pouvoir en place. Et c'est intéressant de voir comment, d'ailleurs, le travail sur la mémoire n'est pas forcément l'apanage des dictatures. Il arrive qu'en démocratie aussi, on ait cette tentation. C'est d'ailleurs les moments où le droit est recouvert par le bien. Ne prenons qu'un exemple, on en a déjà parlé. Remarquez que sur les timbres à l'effigie d'André Malraux, la cigarette qu'il portait a été effacée. Que sur la photo de Jean-Paul Sartre, qui avait été brandie par la Bibliothèque nationale au moment d'une exposition qui lui était consacrée, la cigarette ou la pipe avait été effacée. De la même façon sur les photos de Jacques Chirac. On efface la cigarette. Tout comme on a pu remplacer la cigarette de Lucky Luke par une pâquerette. C'est le même procédé. Dans tous les cas, on s'en prend à la mémoire, c'est-à-dire qu'on s'en prend au passé lui-même. C'est une erreur de croire, et en particulier dans un système totalitaire, que le passé n'est que ce qu'il est. En réalité, le passé est constamment tributaire des intentions du présent. Le passé est malléable. Bribabille est celui qui ne cesse de violer la mémoire ou de persuader les animaux, comme il le dit à un moment, de persuader les animaux que leur mémoire est en défaut. Par exemple,
les animaux apprirent encore qu'à boule de neige, au rebours de ce que nombre d'entre eux avaient cru jusque-là, n'avait jamais été conférée la distinction de héros animal première classe. C'était la pure légende propagée par Boule de Neige lui-même à quelque temps de la bataille de l'étable. Loin qu'il ait été décoré, il avait été blâmé pour sa couardise au combat. Cette nouvelle-là, comme d'autres avant elle, laissa les animaux abasourdis. Mais bientôt, Bribabille sut les convaincre que leur mémoire était en défaut.
On réécrit constamment l'histoire. Constamment l'histoire. L'ultime viol de la mémoire, c'est quand, après avoir fondé la révolution sur la négation de l'humain au profit de l'animal, Napoléon, pour justifier le fait de discuter avec les humains, de commercer avec les humains, voire de vendre Malabar à l'écarisseur, ce qu'il n'avoue pas vraiment, contre quelques caisses de whisky, pour justifier cela, on réécrit le slogan initial qui était « quatre pattes oui, deux pattes non », on le réécrit en disant « quatre pattes bien, deux pattes mieux ». C'est le moment où les cochons eux-mêmes se mettent à marcher à deux pattes. L'ultime viol de la mémoire se fait ici, s'opère ici. Et ça, c'est très intéressant chez Orwell. Orwell a ce génie de montrer à quel point, dans une dictature, au fond, l'avenir est écrit, mais le passé ne l'est jamais.
Oui, il y a un personnage, justement, qui, lui, n'a jamais participé à l'enthousiasme de la Révolution, qui est resté assez indifférent, c'est l'âne, le vieil âne Benjamin, qui prononce de ci, de là, quelques paroles un peu sibyllines, et qui, à la fin, c'est lui qui lit sur le mur de l'étable cette différence, cet ajout, il lit tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres.
Absolument. C'est Orwell, d'ailleurs, qui a inventé cette phrase. L'idée que tous les hommes sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. C'est Benjamin qui le dit. De la même manière que c'est Benjamin qui, quand on emmène Malabar, parce qu'il est vieux, à l'écarisseur, en faisant croire qu'on va le soigner, qu'on va s'occuper de lui, que Malabar est un héros et qu'on va le sanctifier, le préserver, etc., etc., Benjamin est celui qui, alors que tous les animaux se pressent autour du fourgon et crient en chœur « Au revoir Malabar, au revoir, au revoir », leur dit « Mais bande d'idiots !» Bande d'idiots, est-ce que vous ne voyez pas, comme c'est écrit sur le côté du fourgon, les animaux se turent et même ce fut un profond silence, Benjamin se mit à lire Alfred Simons, écarisseur et fabricant de matières adhésives. Y êtes-vous maintenant, dit-il, ils emmènent Malabar pour l'abattre. Et il faudra tout le génie oratoire de Bribabille pour, là encore, faire passer la pilule et leur dire qu'en réalité, il n'en est rien. Benjamin, c'est le philosophe taciturne, c'est le témoin désabusé, c'est celui qui refuse de s'engager, c'est celui que la dictature débecte naturellement, c'est celui que la dictature écœure, mais qui ne se sent pas la force de lutter contre elle, et qui surtout n'a pas le sentiment qu'en sortant de la dictature, on puisse retrouver la liberté. C'est le pessimiste, c'est un mélancolique à la fois lucide et lâche, Benjamin. Regardez, il dit...
Seul le vieux Benjamin affirmait se rappeler sa longue vie dans le menu détail et ainsi savoir que les choses n'avaient jamais été ni ne pourraient jamais être bien meilleures ou bien pires. La faim, les épreuves et les déboires, telle était, à l'en croire, la loi inaltérable de la vie.
C'est celui que son pessimisme préserve, heureusement, de l'enthousiasme révolutionnaire. Mais c'est celui que sa lâcheté, ou plus exactement que son pessimisme anthropologique, préserve de lutter contre la révolution une fois qu'elle a pris ses quartiers, qu'elle s'est installée et qu'elle règne et qu'elle exerce sur les autres animaux un pouvoir sans partage.
Oui, préserve, oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez par lâcheté. Mais en même temps, c'est le seul, et vous l'avez dit, qui fait un effort de mémoire parce que les autres, et c'est intéressant de remarquer, je reviens vraiment en avant du livre, à la première soirée de la Révolution, juste le soir du combat, c'est la nuit où les animaux dorment le mieux de leur vie. C'est la première fois qu'ils dorment et c'est comme le début d'une longue nuit et d'un sommeil sans mémoire et sans rêve qui va se poursuivre jusqu'à la fin du roman.
Absolument. La meilleure preuve que les animaux se sont endormis durablement à l'instant où ils croient s'éveiller. Ce qui fait de la révolution un rêve éveillé. La meilleure preuve que les animaux se sont endormis, c'est qu'ils avalent toutes les trahisons de l'idéal révolutionnaire. La plus symptomatique, la plus intéressante et la plus rousseauiste d'ailleurs, c'est, on en a parlé un peu au début, l'interdiction des rubans. De plus, tous les cochons, écrit Orwell, on est à la milieu de la révolution, quel que fût leur rang, jouiraient désormais du privilège d'être vus le dimanche un ruban vert à la queue. Et ça, c'est le meilleur exemple, je crois, de la façon dont l'idéal révolutionnaire repose sur une vertu dont les dirigeants s'exonèrent eux-mêmes. Les cochons mangent des pommes, boivent du lait, puis boivent du whisky, puis portent des rubans, puis se mettent à marcher à deux pattes, c'est-à-dire endossent à tous égards tous les signes distinctifs de l'humanité honnie contre laquelle ils ont commencé par élever le peuple.
Et puis il y a aussi, c'est peut-être plus anecdotique, mais l'interdiction de chanter « Bête d'Angleterre », qui est une effigie de l'international, bien sûr. Et les animaux n'ont plus le droit d'entonner ce chant dans la basse-cour.
Alors, ils n'ont plus le droit d'entonner ce chant dans la basse-cour, et c'est très important, parce que « Bête d'Angleterre » est le chant révolutionnaire initial. Mais, comme toujours, une révolution est conduite, menée au nom de la liberté. Si, une fois que le pouvoir totalitaire à laquelle une révolution malgré elle a donné le jour règne, enfin, si ce pouvoir totalitaire veut être maintenu, il a besoin de priver la révolution du ferment libératoire qui lui a donné le jour, à la façon dont, dans les frères Karamazov, le grand inquisiteur, retrouvant le Christ, lui dit « Je vais te mettre à mort, puisque tu es aux antipodes de l'Église que j'incarne. Tu es celui qui m'empêche, justement, de prendre le pouvoir. Tu es celui qui, par son existence même, par la foi, au fond, dont elle témoigne, s'oppose à ce qu'est devenu la religion, c'est-à-dire l'institutionnalisation sous prétexte de foi d'un système totalitaire. C'est la même histoire. On a besoin de supprimer l'hymne en vertu duquel les animaux se sont soulevés, car le même hymne peut être brandi contre ceux qui se sont installés au pouvoir en s'appuyant d'abord sur les paroles de l'hymne. Donc, la révolution a besoin de nier ses propres commencements. L'enjeu de la révolte, justement, c'est de préserver cette flamme révolutionnaire. Le problème des révolutions, c'est que c'est comme l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt, trop de révolution tue la révolution. C'est exactement ce qui se passe ici. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'hymne en question, il n'est chanté au départ que par les moutons. Que par les moutons. Les moutons, c'est quand même intéressant. Il n'est quand même pas innocent que ce soit les cochons qui disposent de l'ordre intellectuel, c'est-à-dire les cochons, les amoureux de la fange, qui se présentent comme de purs esprits aux autres animaux, et que ce soit les moutons, dont les bêlements formidables signifient la reprise de l'hymne. Et que par ailleurs, les cochons soient également ceux qui interrompent Boule de Neige au moment où ils présentent le projet du moulin à vent, qui le font taire, au fond, à la façon dont on a pu, dans la plus pure tradition, alors là pour le coup trotskiste, noyauter les réunions pour faire taire les opinions dissidentes. C'est la même affaire. C'est une liberté qui, faute de s'être organisée, faute d'avoir hiérarchisé ses priorités, se retourne contre elle-même. Au fond, la ferme des animaux ne raconte que cela, ne raconte que la façon dont une révolution se tire une balle dans le pied et trahit ses propres idéaux par intégrité. Au fond, ce que raconte la ferme des animaux, c'est le dévoiement de l'intégrité révolutionnaire en intégrisme, tout simplement. Ça n'est rien d'autre. Et la culmination de l'intégrisme par la loi du commerce, en identification au tortionnaire lui-même, c'est-à-dire à celui dont on a prétendu révoquer la tutelle. Donc il y a le scandale qui justifie la révolution, il y a la prise de pouvoir par les animaux, il y a au nom de la vertu, il y a un hymne, et puis ensuite, il y a le retour sur cet hymne-là au nom du fait que la révolution doit être préservée contre les éléments séditieux. Mais c'est une révolution qui, en réalité, ne brandit les boucs émissaires que pour justifier les procédures totalitaires qu'elle met en place au nom de la liberté. On arrive au terme de cette discussion déjà, Paola. Il y aurait mille choses à dire. Disons, il y aurait mille paragraphes sur lesquels on pourrait s'arrêter pour comprendre la façon dont s'élève, se construit et se défait ou se déconstruit l'idéal révolutionnaire, la façon dont il se déconstruit tout seul. Au fond, c'est pas le capitalisme qui s'effondre sous le poids de ses propres contradictions, c'est la révolution soviétique, ce que Orwell avait compris dès 1947. On pourrait s'arrêter sur chaque paragraphe pour le dire, mais l'essentiel pour nos auditeurs, qui seront peut-être des lecteurs d'Orwell s'ils ne le sont pas déjà, des lecteurs de ce texte génial, de cette métaphore extraordinaire, nos auditeurs doivent bien comprendre que c'est la meilleure introduction, me semble-t-il, à toute critique intrinsèque, endogène, de la façon dont les révolutions se détournent de leur objet initial. J'ai parlé de Camus au début. Je voudrais juste finir là-dessus, parce que ça me semble important. On a parlé de Camus au début pour dire que Orwell et Camus, d'abord c'est la guerre d'Espagne, et puis ils incarnent l'un et l'autre un socialisme antitotalitaire. C'est vraiment une gauche antitotalitaire. Bon, c'est-à-dire le meilleur de la gauche. Une gauche qui ne sacrifie pas à ses idéaux, ou en somme qui se rend à l'idéal, mais qui se donne pour viatique de comprendre le réel. Donc une gauche antitotalitaire. Cette gauche antitotalitaire a aussi donné le jour à des paraboles formidables. Deux textes jumeaux ici, on va finir là-dessus. La ferme des animaux et la peste. La peste est une grande métaphore qui décrit l'invasion de la peste brune, c'est-à-dire du fascisme ou du nazisme. La ferme des animaux s'en prend à l'idéal soviétique. C'est la même histoire dans les deux cas. Mais, et c'est ça que je voulais dire, la magie de ces deux textes, c'est qu'on peut aussi, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, parce qu'on n'avait qu'une heure pour le faire, mais on peut aussi les lire au premier degré. Je le dis à nos auditeurs, vous pouvez, en lisant La Peste, vous contenter d'y voir, et il n'est pas dit que vous perdiez au change, le combat, un rassemblement de médecins, contre de fonctionnaires, contre une maladie objective, contre une pathologie médicale. Vous pouvez, en lisant La ferme des animaux, lire la façon dont des animaux prennent le pouvoir contre les hommes. On peut aussi lire ces deux textes au premier degré. Et je crois même qu'il est important de savoir le faire. Il ne faut pas tout de suite céder à la tentation de l'interprétation. Il faut se laisser prendre par un récit dont le premier degré est déjà hilarant et dont la narration est déjà tellement... Disons que ce sont des textes formidables parce qu'on n'a pas besoin de savoir pour les aimer. On n'a pas besoin de savoir ce dont ils parlent vraiment pour les trouver formidables. Et j'aurais menti par omission à nos auditeurs si j'avais pas dit ça.
Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. La raison donnant son cratère, c'est l'éruption de la faim. Et du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons doupidoupidoudou.
Merci Raphaël, merci à tous. François Connac, Olivier Dupré et Alice Ramon. Alice qui met à votre disposition écoutes en ligne et bibliographie sur le site de l'émission et la page Facebook du Gai Savoir. Et enfin, un grand merci à Georges Clès.
Et demain, la terre nationale sera le jour humain.
On se retrouve la semaine prochaine pour une ultime virée dans le voyage au bout de la nuit, au programme Installation à Rancy et descente aux enfers de la médiocrité.
Un peu bourru, un peu bravache, pour nous c'était presque un père.
Joli cœur sous une peau de vache, grand cœur sans en avoir l'air. Révolutionnaire sans tâche, oui, Staline est exemplaire.
La philosophie continue dès demain sur France Culture avec les nouveaux chemins de la connaissance. Retrouvez Adèle Van Rett de 10h à 11h du lundi au vendredi.
L'international.
Samedi 13 juin à 15h. Samedi prochain, donc, Raphaël s'entretiendra de politique chez Merleau-Ponty avec Vincent Peillon. Le 17h sur France Culture, tout de suite l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.